marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi. Car sans ennemi, la guerre est ridicule.
Bertrand Badi, la turbulence internationale.
Juillet 2015.
Coup de klaxon et cris de joie ont retenti hier soir dans les rues de Téhéran. L'accord conclu hier matin entre les grandes puissances et l'Iran met fin à 12 ans de tensions autour du nucléaire et l'ouvre une nouvelle page dans les relations internationales. Un projet de résolution sera bientôt présenté par les États-Unis.
Bertrand Badi, un moment historique qu'on vient de vivre.
Oui, et plus encore. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une victoire de la diplomatie endormie depuis longtemps. Depuis 1989, la chute du mur de Berlin, des grandes négociations politiques, je ne parle pas des transactions commerciales, mais les grandes négociations politiques n'existaient plus. Et c'est un paradoxe. Pendant la guerre froide, où on était dans une situation d'extrême tension, on négociait. Depuis la chute du mur, on ne négocie plus, on sanctionne, on punit, on met au coin. Là, c'est une nouvelle étape dans l'histoire diplomatique qui est en train de s'ouvrir et qui est effectivement très positive.
Alors Bertrand Badi va intervenir 3 ans plus tard. Il considère que ce qui est dit là, il y a 3 ans, est intelligent. Bah oui, parce que la grande idée, le monde nouveau lance un défi aux États champions. C'est ce que Bertrand Badi explique dans son cours Espace mondial à Sciences Po. Ces États champions appartiennent depuis plus ou moins longtemps à la Ligue 1. Mais les États de seconde division font pression et derrière eux, la division d'honneur pointe le nez. Alors comment tenir encore les vieilles postures hégémoniques ? En signant cet accord il y a 3 ans avec Téhéran, les vieux pays dominants, sans renier leur credo de la non-prolifération nucléaire, avaient acté comme fondamentale l'idée de la négociation. Aujourd'hui, Trump abat le travail de son prédécesseur. Son administration étant traversée de beaucoup de courants d'air, il est difficile d'élucider tous ses choix. En affirmant sa volonté de mettre à genoux Téhéran, il reprend le vocabulaire traditionnel, la suprématie américaine. D'un autre côté, il met à mal les alliances qui la caractérisaient. D'un côté, il veut sanctionner l'Iran pour un programme nucléaire que Téhéran a mis en veilleuse. De l'autre, il reconnaît à la Corée du Nord, qui a parachevé le sien, le privilège de discuter avec lui. Dans les faits, les contradictions de la Maison-Blanche ne font qu'ajouter à la turbulence qui caractérise maintenant le système international. Turbulence. Alors Bertrand Badi dit, c'est pas un mot si négatif, mais ça caractérise les enfants de talent. Le mot, il est apparu en français dès le XVIIe siècle. À l'époque, les traités de Westphalie de 1648 avaient créé en Europe un concert d'États dominants et l'Europe se voyait seule au monde. Corneille, pourtant, parlait du turbulent espoir de tant de concurrents que la soif de régner met sur les rangs. Et ne croyait pas si bien dire. Aujourd'hui, aux États de seconde division, à ceux de la division d'honneur, s'ajoutent 7 milliards d'hommes qui vivent dans une même quasi-immédiateté, les mêmes émotions, les mêmes frustrations. Ce sont autant d'acteurs dans ces conditions inédites. Il est encore plus difficile pour les puissances établies de contrôler des événements qui saisissent à la gorge tant d'habitants d'une planète où les distances sont abolies.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Vous reconnaîtrez l'effort, hein. J'ai essayé de plagier quelques-unes des grandes idées que vous développez dans votre cours Espace mondial, donc d'illustre mémoire à Sciences Po. Dans vos livres, l'un des derniers, vous publiez régulièrement à la découverte, nous ne sommes plus seuls au monde. Quand vous réécoutez 3 ans après?
J'avais peur quand vous m'aviez annoncé quelque chose que j'avais dit il y a 3 ans ou presque 3 ans. Et puis, je me suis rassuré. Peut-être que nos auditeurs seront choqués de cette bonne conscience. Mais je pense qu'effectivement, plus que jamais aujourd'hui, on comprend l'exceptionnalité de ce qui s'est passé ce 14 juillet 2015. C'est-à-dire renouer avec la négociation, qui est un genre ancestral, plus qu'ancestral, multiséculaire, et qui était tombé en désuétude, et dont je crains qu'il retombe en désuétude, mais vous verrez, pas pour si longtemps que ça. L'autre élément fondamental, c'était aussi le retour de la diplomatie. C'est quand même paradoxal de voir que dans un monde qui avait réussi à balayer l'un des clivages les plus pesants qu'il eût à subir, la diplomatie se limitait à la tasse de thé, c'est-à-dire que le mot d'ordre qu'on se partageait partagée, c'est on ne parle pas à un tel, à une telle, à eux, à cela. Et cette négociation était emblématique. Cinq puissances membres du Conseil permanent du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus un nouveau venu, ceux de la deuxième division à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, qui parviennent à un accord. Qu'est-ce que c'est qu'un accord? Qu'est-ce que c'est qu'une négociation, après tout? Qu'est-ce que c'est? C'est l'art du compromis, c'est-à-dire c'est rechercher là où les intérêts peuvent converger. Par définition, les intérêts ne convergent jamais totalement. La négociation, c'est voyons où ils peuvent converger. Alors quand Monsieur Trump aujourd'hui nous explique que cet accord était épouvantable, c'est parce que cet accord choquait une conception qu'il avait de l'intérêt américain. Mais moi, je dirais qu'un accord est horrible, encore pour reprendre ces termes, que si il n'apporte pas cette convergence minimale, à l'école on appelait ça le plus grand dénominateur commun, entre les parties prenantes, avoir trouvé un dénominateur commun entre l'Iran, la Chine, la Russie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'était un beau travail de diplomatie.
À l'école, on apprend le plus petit dénominateur commun. À Sciences Po, dans vos cours, on apprend beaucoup d'histoire, ça commence longuement. Vos interventions par l'évocation, puisqu'on parle de la négociation, des négociations d'autrefois. Les traités de Westphalie, 1648, tiens, c'est une date anniversaire à l'issue de la longue et cruelle guerre de 30 ans, sont signés à la suite de négociations multilatérales et acharnées qui ne se tiennent même pas toutes aux mêmes endroits, parce que les interlocuteurs n'acceptent pas toujours de se rencontrer visuellement. Et bien donc, des textes importants sortent, que va saluer dans un instant le cardinal de Richelieu, le Premier ministre français lui-même.
Nous arrivons donc maintenant au traité de Westphalie, et au pluriel, et pourquoi ?
Les traités de Westphalie, si vous voulez, ont été signés entre les protagonistes, d'une part le Royaume de France, et l'Empire, et d'autre part avec les princes allemands, les princes protestants.
Avec une période de négociation fort longue.
Très longue.
Et sans l'Espagne.
Et sans l'Espagne, effectivement. Et sans l'Espagne. Et bien sûr, ce traité qui a été fort long à élaborer, avec des moments où on pensait que les affaires se briseraient, et puis les négociations ont repris.
En Westphalie, à Münster, nous sommes sur le point de conclure les négociations.
Nous aurons Philippsbourg.
Et Neubrisach, et toute l'Alsace entre Vosges et Rhin, et les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, et Pignerol, d'où je peux le couper du Habsbourg d'Espagne.
Sincèrement, monsieur le cardinal, vous aussi, vous gagnez des batailles.
Avant, il y avait la chrétienté, qui n'est plus possible avec la division catholique-protestant. Avant, il y avait les empires, le Saint-Empire romain germanique qui est évoqué ici n'est plus qu'une survivance. La nouveauté, c'est qu'il y a des États qui s'appuient sur une territorialité, avec des frontières qui vont être de plus en plus droites, lisses. Les trois évêchés, Metz, Toul, Verdun, c'était une enclave. Maintenant, ça va être partie intégrante du territoire français.
Absolument. Alors, d'abord, je retiendrai prioritairement le fait que on va avoir désormais une juxtaposition d'unités territoriales souveraines de poids à peu près équivalent, de puissance à peu près équivalente. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est une anomalie de l'histoire. Si vous regardez l'histoire antérieure, il y avait très exactement ce que vous avez dit, la papauté, l'empire, j'ajouterai aussi la féodalité pour brouiller un peu plus les choses. Dans tous ces cas de figure, le caractère symétrique entre ces unités territoriales, le caractère égal entre ces unités territoriales ne se posait pas. Donc il y avait une sorte de loi commune de la chrétienté, loi commune de l'Empire. Là maintenant, les unités territoriales souveraines se juxtaposent, il n'y a plus de loi commune, parce que Monsieur de la Palice aurait été d'accord avec nous. À partir du moment où elles sont souveraines, pourquoi viendraient-elles se soumettre à une loi commune? Il n'y a plus de loi commune, donc le maître mot, désormais, à partir de Westphalie, ça va être la compétition de puissance. On va entrer dans un jeu international pour la première fois dans l'histoire. C'est l'invention directe du système international, dans lequel l'ordre n'est plus dicté par une unité, un empire, une religion, une papauté ou ce que vous voulez, mais l'ordre va dériver de la compétition. La puissance va devenir système. C'est en quelque sorte la compétition qui règle le jeu international. Il faut bien le retenir parce que ça, c'est fini aujourd'hui.
Mais quand va-t-on parler de concert des nations ?
Alors, dans un premier temps, la compétition va bien se passer, c'est-à-dire tous ces rois qui sont souvent cousins, qui se connaissent bien, vont jouer à cette compétition un peu à la manière d'un tournoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que les sociétés vont en être écartées. Les sociétés ne s'occupent pas de guerre, c'est un métier noble, aristocratique, et ce sont les États, c'est-à-dire les princes essentiellement, qui règlent ce jeu de tournoi qui finalement les arrange, leur convient parfaitement. Et puis, il y a eu la grande césure. La grande césure, c'est la Révolution française. Pourquoi la Révolution française ? Parce que avec la Révolution française, pour la première fois, une société, un peuple, va s'emparer de la guerre. 1792, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est plus une compétition de puissance, c'est, comme nous dit le chant du départ, pour envoyer les tyrans au cercueil. Envoyer les tyrans au cercueil, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le peuple souverain s'avance, n'est-ce pas ? Le peuple souverain va s'emparer de la guerre pour promouvoir sa vision du monde, son imaginaire. Alors, là, tout va se déglinguer, car cet aimable tournoi entre monarques va devenir quelque chose qui risque de déposséder les monarques. On va voir ces manants, ces hordes populaires envahir les champs de bataille. Le grand René Girard nous explique comment, par exemple, dans la bataille d'Iéna en 1806, l'idée de nation allemande va germer dans la tête des personnes. Voilà que l'international va devenir une chose populaire. Et donc, les monarques vont sentir leur couronne chanceler, confirmée par Napoléon, qui va pas vraiment changer la donne de ce point de vue.
Pour mettre fin à l'aventure napoléonienne, les souverains qui l'ont emporté, au moins provisoirement, jouent en symphonie un concert des nations au Congrès de Vienne.
Voilà, parce qu'ils ont eu très chaud, ils ont eu très peur... l'incendie est éteint, l'un des leurs revient sur le trône de France, donc... Il va falloir reprendre le modèle westphalien, mais avec un amendement considérable. C'est-à-dire, ne jouons pas trop à la guerre, jouons plutôt à la paix pour garder nos couronnes. Et pour jouer à la paix, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire de la prospective. Et comment faire cette prospective ? On se réunit tous les ans en G4, puisqu'ils étaient quatre. Puis à partir de 1818 et Aix-la-Chapelle, G5, puisque la France va être pardonnée et va rentrer. Et ces cinq-là... pas gênés, vont décider du sort de l'Europe et même du monde. Parce que au moment où l'Amérique latine se décolonise, le G4 et le G5, plutôt ce sera déjà le G5, ne s'interdiront pas de donner leur avis. D'où la doctrine Monroe en disant restez chez vous.
Donner leur avis aussi, vous parlez des conférences de Berlin, il y en a une première en 1878, il y en a une deuxième en 1885, donner leur avis sur la colonisation de l'Afrique.
Mon Altesse Sérénissime, le prince de Bismarck, chancelier de l'Empire d'Allemagne.
Notre conférence est arrivée au terme de ses travaux. Je suis heureux qu'une entente complète ait été établie sur tous les points du programme qui nous avait été soumis. Les résolutions prises assurent au commerce de toutes les nations le libre accès au centre du continent africain.
La liberté de circulation sur le fleuve Congo et sur le fleuve Niger.
Vous avez tenu à prévenir les contestations auxquelles de nouvelles prises de possession sur les côtes d'Afrique pourraient donner lieu. Messieurs, je suis chargé par Sa Majesté l'Empereur et Roi, mon auguste maître, de vous exprimer ses remerciements les plus chaleureux.
Fort bien. Nous allons donc pouvoir passer à la signature. Messieurs.
Au succès de la conférence. À Bismarck.
Ce n'est pas parce que Bismarck tient le crachoir, organise la conférence qu'il faut... Imaginez qu'il veut donner un rôle absolument prééminent à l'Allemagne, parce qu'on reste dans ce système de compétition, de puissance, qui cherche quand même à se contrebattre et à être à peu près égal. Il y a les États-Unis, là,
Alors voilà, c'est la grande nouveauté. Au nom de la doctrine Monroe, je vous rappelle 1823, les Américains disent « nous, nous sommes chez nous, en Amérique », c'est pour ça que je dis les Américains, et eux, ils sont chez eux, en Europe. Et donc, ils refusent systématiquement toute invitation que les Européens leur adressent aimablement, parce que finalement, un Américain, c'est quand même un petit peu un Européen, vous voyez, c'est le début d'une histoire nouvelle. Et en 1885, ils viennent. Pourquoi ils viennent? Parce qu'ils avaient pas mal d'intérêt dans cette société du Congo que le bon roi Léopold était en train de mettre en place. Donc, l'histoire du partage de l'Afrique ne les laisse pas totalement indifférents. Ils viennent et ils disent « nous, on ne sait pas parler le français ». Et c'est à partir du congrès de Berlin 1885 que « we had to move to English ».
Alors, on cherche à suivre un fil conducteur. Et bien sûr qu'on fait des ellipses, déjà la guerre de 70, les deux guerres mondiales, mais votre thèse, Bertrand Badi, c'est que la dernière mouture de la forme, concert des nations, compétition des grands, c'est le G6, devenu G7, G8, un moment G20. Et on se souvient peut-être d'un jeune président qui, la première année de son mandat, menait une politique diplomatique extrêmement dynamique. C'était en 1974, il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Et il avait monté une petite réunion sympathique à la Martinique pour préparer le premier G6.
30 degrés hier après-midi, il fait bon vivre en ce moment à la Martinique, à condition bien sûr d'avoir un coin de plage ou une piscine à proximité. C'est le cas pour les présidents Ford et Giscard d'Estaing qui ont pu faire trempette ensemble hier avant de se replonger dans les problèmes de l'énergie.
Au menu, une soupe froide de concombre, un steak style New York, un épi de maïs de Floride et une glace surprise dont on ne précise pas l'origine géographique. On se demande souvent dans des réunions de ce genre, devait dire hier soir lors du dîner le président français qui a gagné, qui a perdu ou fait des concessions. Je crois qu'il n'y a cette fois aucun vainqueur, j'ai plutôt le sentiment que nous avons réalisé quelque chose d'utile, de réaliste et de valable, qui ne pourra qu'accélérer la solution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Quant à la forme de cette réunion, eh bien, comme vous le voyez, elle était vraiment excellente.
Et l'année suivante, les États-Unis s'étant laissés convaincre, non sans traîner les pieds, Giscard réunit le premier G6 à Rambouillet, pas de piscine, un étang sur lequel on peut canoter, puis après, chacun regagne ses appartements qui sont organisés un peu de la même manière pour les uns et les autres.
Chacun des invités résidera dans une suite de styles différents. Satin et meubles d'acajou pour Harold Wilson par exemple, style directoire pour Helmut Schmidt, empire pour Aldo Moro et Louis XVI tendu de tissu bleu pour Takeo Miki le japonais. Et pour ne pas couper totalement les résidents de Rambouillet du monde extérieur, chacun d'entre eux aura son ou ses téléphones, une radio et une télévision en couleur. Gerald Ford sera relié en permanence à la Maison Blanche, il pourra donc connaître très vite ce soir les résultats des matchs de football américain qui, quelles que soient les circonstances, continuent de le passionner.
Gerald Ford, pour qui l'a oublié pendant 2 ans et quelques mois, président des États-Unis en remplacement de Nixon. Bertrand Badi.
Oui, alors, d'abord une chose. Il y a un prolongement très net de ce G5, entre guillemets, constitué avec le Conseil européen en 1815-1818 et ce que vous décrivez là, avec quand même une différence majeure. C'est que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce G6 qui va naître à Rambouillet est une affaire intérieure à l'hémisphère occidental. C'est-à-dire que la prétention à l'époque n'était pas de régler les affaires du monde, mais de remettre de l'ordre dans la maison occidentale qui était en grand désordre. C'était la crise du dollar, c'était l'affaiblissement des États-Unis suite au Watergate, c'était la défaite américaine au Vietnam. Et donc, l'idée de Giscard, c'était une plateforme pour renégocier l'ordre économique occidental. Alors, ce qui va se passer de peut-être plus important, c'est un peu plus tard, lorsque va tomber le mur de Berlin, que Gorbatchev lui-même était candidat pour rejoindre le G qui était devenu 7, parce que le Canada qui est arrivé entre-temps. Et là, on traîne les pieds. On préfère donner cette chance à son successeur déjà programmé, Boris Yeltsin. C'est la raison pour laquelle, à Londres, en juin 91, ça se passe plutôt mal. Mais en revanche, Yeltsin va être accepté, mais pas totalement. Il va être accepté dans un G7+1 pour bien montrer que le nouveau, là, n'aura pas à s'occuper de toutes les affaires, mais de celles qui véritablement mérite qu'on l'associe. Et ce n'est qu'à la fin du siècle dernier que le G7 va devenir timidement le G8. Il ne va pas le rester longtemps, puisqu'en 2014, on va voir la Russie à nouveau éjectée à cause de l'affaire de Crimée. Mais alors, justement, ce qui se passe, c'est que avec cette formation du G7 plus 1 puis du G8, la vieille prétention va renaître, mais cette fois-ci mondialisée. C'est-à-dire pas gênée, les 7 plus 1 vont prétendre être le directoire du monde. Je dis pas gêné parce que, entre-temps, il s'est passé une toute petite chose. C'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire la décolonisation, c'est-à-dire un monde à 180 et quelques États. Maintenant, on en est à 193 aux Nations Unies. Et ça veut dire surtout que le clivage Est-Ouest est remplacé par un clivage Nord-Sud. Personne du Sud, ça fait rien, c'est pas le problème. Et là, effectivement, en division 2, où piaffent tous les émergents, il y a une forme d'impatience.
Mais je vois que vous dites ça avec calme, mais il n'y a pas que les acteurs étatiques. Une de vos grandes hypothèses de travail, Bertrand Badi, c'est qu'il faudrait remplacer presque l'histoire des relations internationales, ce qu'on a fait jusqu'ici, par une sociologie internationale, puisqu'il y a maintenant abolition des distances, du moins en partie, musique mondialisée, imaginaire mondialisé, peut-être aussi frustration mondialisée. Je vous propose d'écouter Mathieu Chédid. Il est avec les Diabatés. Nous sommes au Mali, tiens, à Bamako. Et on sait que la musique africaine pénètre le monde entier, que la musique européenne pénètre le monde africain. Et là, tout de suite, illico, immédiatement. Les habitants de l'Afrique, prenons le cas de l'Afrique et du Mali, qui se percevaient comme enracinés dans le local, le national. Alors maintenant, ils se situent dans un monde qu'ils connaissent peut-être mal, mais qu'ils découvrent brutalement, qu'ils sont tentés de mettre en accusation. Frustration mondialisée.
Oui, c'est tout à fait ça. L'élément central, pour résumer en deux mots notre monde actuel, c'est l'imaginaire mondialisé. C'est-à-dire qu'autrefois, chacun avait un imaginaire très local. Maintenant, chacun se pense dans un monde avec lequel il est en communication, même s'il est très faible et même s'il est très pauvre. J'ai visité, ça m'a beaucoup impressionné, le bidonville de Lagos, Makoko, où on voit ces gens survivre sur la lagune, dans une extrême pauvreté, mais complètement interconnectés. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aujourd'hui en Afrique plus de 300 millions de smartphones connectés. Il ne faut pas oublier qu'un Africain sur trois est internaute. Et tout ceci fait que le monde, c'est d'abord une société globale qui se pense, qui s'imagine, qui gère une différence et une inégalité qu'elle ne percevait pas avant, mais qu'elle perçoit aujourd'hui. Et c'est ça qui fait l'agenda international, beaucoup plus que le jeu subtil ou pas subtil des chancelleries. Comprendre que maintenant l'intersocial a dépassé l'international, c'est le début de la sagesse et de la solution des conflits auxquels nous sommes confrontés.
Alors il y a d'autres solutions qui sont proposées, restant au Mali, un État africain importé, bon, parfois failli, des bandes armées qui vont chercher des appellations, des méthodes que leur permet la mondialisation, par exemple, de l'islamisme, et puis la vieille puissance qui dit « j'ai des responsabilités » et qui intervient, et c'est l'opération Barkhane. La puissance militaire éprouve vite ses limites. Nous sommes ici dans un reportage de Raphaël Kraft, à l'extrême nord du Mali, non loin de la frontière algérienne, avec les hommes de l'armée française.
Comment tu le qualifierais, cet ennemi ?
Il connaît le terrain. Il a eu le temps de nous observer. Il connaît les modes d'action de la force. Ça lui permet de s'adapter et d'user des ruses pour pouvoir placer notamment les mines ou les différents engins explosifs qui peuvent retarder notre avancée.
Tu tires dès que tu es prêt. Donc il y a trois personnels, on peut pas identifier exactement s'ils sont hostiles ou pas. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils sont à moins de 400 mètres de notre bivouac. Donc, vu l'heure à laquelle ça se passe, on peut envisager qu'ils aient des intentions hostiles contre la force.
Voilà. Okay, j'ai deux personnes. Et il y a eu un tir de 12-7, pour quelle raison ? De mitrailleuse, en l'occurrence.
Un tir au coup par coup. Délibérément à côté de l'objectif pour essayer de provoquer chez lui une réaction.
Et là, vous envoyez des éclairants, c'est ça ?
Et là, on envoie des éclairants, pareil, pour essayer de provoquer chez lui une réaction. Le commandement a décidé d'utiliser un matériel qu'on avait à notre disposition. C'était un canon à son, couplé avec un interprète, et qui a fait passer un message clair et simple à ces gens, en leur disant qu'ils étaient dans une zone contrôlée par l'opération Barkhane.
Et donc, la découverte de la présence d'enfants vous conforte dans cette idée que finalement ce n'était que des nomades qui passaient par ici avec leurs troupeaux.
Exact, mais ça on l'a su que beaucoup plus tard, ouais. Voilà, puisque les enfants étaient dissimulés de notre vue et on ne pouvait pas les observer.
Comme dit une commission sénatoriale qui vient de se rendre sur place, on n'est pas sorti de l'auberge. Impuissance de la puissance. Alors Bertrand Badie.
Alors on a cru à un moment que l'opération Barkhane, l'opération française au Mali, était un succès. Rappelez-vous quelqu'un qui disait « c'est le plus beau jour de ma vie ». Et regardez ce qu'est le Mali aujourd'hui. Regardez comment la violence s'est diffusée. Elle n'a pas été arrêtée, elle n'a pas été endiguée, elle s'est diffusée. C'est-à-dire que maintenant, la violence porte au centre du Mali, dans la région de Mofti ou dans les régions préservées des Dogons, notamment les falaises de Bandiagara. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons appris de notre histoire à utiliser le canon contre le canon. Et effectivement, le canon contre le canon, ça marche. La puissance contre la puissance, ça marche. Mais la puissance contre la faiblesse, ça ne marche pas. Le canon contre des sociétés en lambeaux, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais au contraire, ça crée de nouvelles violences. Nous sommes dans une situation inflationniste de violence parce que nous traitons ces violences qui ont un enracinement social, culturel extraordinairement profond, comme s'il s'agissait, c'est ce qu'on entendait, d'ennemis, d'armées qui font face. Nous sommes sur le mauvais chemin. Et le G5 Sahel, c'est ça, en pire, d'un certain point de vue. Il faut comprendre que notre histoire contemporaine a inventé le système international global. Le système international global n'a jamais existé dans l'histoire depuis Adam et Ève. Jamais. Et un système international global, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des inégalités fantastiques. PIB par habitant au Mali, un peu plus de $300. Au Luxembourg ou en Norvège, un peu plus de, même beaucoup plus que $100,000. Et ces inégalités, elles seraient insupportables dans n'importe quel système social. Croire que ça peut marcher au niveau mondial, c'est une gajure qui, en étant acceptée dans l'indifférence non critique, crée un peu plus de ressentiment, un peu plus de violence. Il faut à tout prix arrêter cela. Il faut revenir à notre maître en sociologie, Émile Durkheim, et un de ses disciples, Léon Bourgeois, c'est-à-dire comprendre que c'est dans la solidarité sociale qu'on trouve la vraie réponse à ces violences.
Léon Bourgeois, que vous citez souvent, notamment dans votre livre « Nous ne sommes plus seuls au monde » et qui, en 1910, parlait d'une société des nations. Merci à vous, Bertrand Badie, qui avait conclu ainsi notre semaine sur la guerre.